Ça, ça a été fait. On reprend à... Je ne m'entends pas. On reprend la lettre de Marianne. La lettre de Marianne qui est adressée à Octave, qui dit « Ne venez pas ce soir, mon mari a entouré la maison d'assassins. » Et Octave se mord les doigts parce qu'il vient d'envoyer Célio, et comme il l'avait promis d'une certaine façon, bien qu'il trouve à l'évidence Marianne agréable, il a promis à Célio de ne pas le trahir, et non seulement il ne va pas le trahir, mais il envoie Célio rejoindre Marianne à un moment où Marianne attend en fait Octave. Hein, elle attend qu'Octave arrive. Si bien que quand Marianne voit arriver quelqu'un, elle crie « Fuyez Octave !» Alors c'est vrai que pour ceux qui ont vu Ruy Blas, on a un petit peu Donc, Ruy Blas, sauf erreur de ma part, ça vient après, hein, c'est écrit après. J'ai plus la date exacte en tête, mais bon. C'est qu'à la fin de Ruy Blas, on a une lettre qui... On écoute ou pas ? Quelle date tu as ?
1639.
Non. Non, c'est pas 1669. C'est 1800 quelque chose. Hein, ne pas confondre. Hein. C'est 1669, c'est l'époque à laquelle... Voilà. Hein, alors que... En ce qui concerne les caprices de Marianne, c'est 1833. Hein? Donc Ruy Blas est postérieur. Vous avez dans Ruy Blas une histoire de lettres, mais qui est écrite par Ruy Blas auparavant. Et c'est cette lettre qui va piéger la reine. Hein? Là, vous avez une histoire de lettres qui va arriver trop tard. Ces instruments, en quelque sorte, hein, ces instruments de lettres qui arrivent trop tôt ou trop tard, c'est la marque du drame. Hein, c'est la marque du drame parce que dans le drame, ce qui fait qu'on gagne ou qu'on perd, qu'on meurt ou qu'on reste vivant, c'est un peu le hasard. Hein, c'est justement le sauveur qui arrive trop tard. Hein, c'est un événement qui arrive trop tôt ou trop tard. Ou une lettre qui ne va pas au bon destinataire. Hein. Ça sont les instruments du drame. Hein. Dans les instruments du drame. Ou le hasard d'un combat. Il y en a un des deux qui gagne, mais on voit que les deux combattants sont à peu près de même force. Hein. Le méchant va peut-être glisser sur la mousse, on ne sait pas trop. Hein. Mais le hasard a une bonne place. Alors qu'il semble que dans la tragédie, souvent, il n'y ait pas grand-chose de laissé au hasard. Hein, si je parle du drame, c'est pour l'opposer à la tragédie. Donc Marianne crie « Fuyez Octave !» Imaginez l'impression de Célio. Il vient rejoindre Marianne et il comprend qu'elle attend Octave. Donc il n'est pas joyeux, hein, il n'est pas très heureux. Il a compris en un instant... Donc, Célio comprend en une fraction de seconde que Marianne ne l'aime pas, qu'elle aime Octave, il a même le sentiment qu'Octave l'a trahi, et en plus, il va se mettre à croire qu'Octave l'a envoyé exprès dans ce traquenard. Hein, donc, Marianne ne m'aime pas, Gustave m'a trahi, Célio ne va pas se défendre. Hein? Il va se laisser tuer par le spada. On est dans le suicide, ce qui avait été annoncé plus ou moins dès le début. Hein? Vous avez ici un suicide passif, c'est-à-dire on m'attaque, je ne me défends pas, je me laisse tuer, je me laisse assassiner. Et alors ce que j'avais dit peut-être, je ne sais pas si j'ai eu le temps de vous le dire, le mot de la fin, deux mots de la fin. Le mot de la fin d'Octave à propos de Célio, il préférait ses illusions à la réalité. Vous avez là quasiment une définition du héros romantique. Hein? Le héros romantique, par opposition à la période réaliste qui va venir derrière, hein, c'est celui qui préfère ses illusions à la réalité. Entre autres, hein, ce n'est pas le seul critère. On a parlé comme critère du caractère suicidaire du héros romantique. Et puis, le vrai mot de la fin, c'est Octave qui va l'avoir. Après tout ce drame, eh bien, que fait Marianne ? Elle pourrait pleurer, rentrer chez elle, s'enfermer. Non, elle va trouver Octave. Elle lui dit, mais Octave, il n'y a pas de problème. Célio est mort. D'accord, mais moi je t'aime. Et Octave répond, le problème c'est que je ne vous aime pas. C'était Célio qui vous aimait. Hein? Voilà le petit cadeau final que reçoit Marianne. Voilà, il reste une toute petite question, soulevée par un des profs qui ont étudié les caprices de Marianne, qui est une question traditionnelle qu'on pose à propos des ouvrages, c'est la question du titre. Hein. Vous savez que vous pouvez avoir, que ce soit sur un poème, que ce soit sur un roman, sur une pièce de théâtre, comme simple question à l'oral, expliquer le titre. Hein, donc ce n'est pas forcément cadeau comme question. Je ne suis pas sûr qu'on la pose souvent, mais ça fait partie des questions possibles. Hein. Donc si vous expliquez le titre Les Caprices de Marianne, il va falloir expliquer deux choses. Il va falloir vous poser la question de savoir si c'est vraiment Marianne l'héroïne de l'histoire. Hein, si ce n'est pas Célio par exemple. Est-ce que ce n'est pas Célio le héros de l'histoire, hein? Donc est-ce qu'on n'aurait pas pu intituler cette pièce, non pas les caprices de Célio, hein, mais Célio tout court, ou le drame de Célio, si vous voulez annoncer un peu la couleur. Hein, pas les malheurs, mais le malheur au singulier de Célio. Hein, et puis l'autre partie de la question, puisqu'il y a les caprices, c'est de vous interroger sur le sens du mot caprice. Alors là, je vous renvoie au dictionnaire. Hein. Les sens sont multiples. Hein. Ça veut dire, disons, au premier niveau, changement d'humeur, changement d'avis, changement de direction. Hein. Et ce qu'il faut se demander, c'est si dans ce titre, si c'est péjoratif par rapport à Marianne, je pense que oui. Hein, je pense que Musset, vous regarderez un peu la vie de Musset, en particulier sa relation avec Georges Sand, vous verrez que du côté déception amoureuse, Musset a été bien servi. Hein, voilà, donc il est sûr, il est certain qu'il ne portait pas forcément les femmes dans son cœur, même s'il courait derrière. Hein, son jugement à propos des femmes n'était pas forcément un jugement positif. Néanmoins, si on regarde la pièce en elle-même, le propos de la pièce, hein, on ne voit pas une énorme culpabilité de Marianne. Hein, on n'a pas, ma foi, je trouve que, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais que le personnage de Marianne est un personnage plutôt ordinaire, en quelque sorte. Hein, il n'a rien d'extraordinaire. Ça pourrait, on pourrait en débattre. Voilà. C'est tout en ce qui concerne les caprices de Marianne. Néanmoins, je vous invite quand même, pour ceux qui ont Internet, à, vous l'avez peut-être fait, à voir les extraits qui en sont donnés sur mon site, qui ne sont pas énormes, mais ça soulève quelques problèmes, en particulier concernant la mise en scène. Donc je ne saurais pas trop vous conseiller, je vous conseille d'aller le voir. Si vous voulez bien maintenant, j'avais pensé aujourd'hui voir un petit peu ce sur quoi vous avez planché, c'était quand ? Lundi ?
Vendredi.
Ce sur quoi vous avez planché vendredi, donc vous pouvez mettre en titre, hein, correction de l'épreuve commune, et puis on va voir ce qu'on attendait comme réponse. Alors, sur première question. Alors, vous pouvez avoir comme soutien, si vous n'avez pas le sujet sous les yeux, au moins le texte des Caprices de Marianne qui vous a été distribué en début d'année, sinon même le même texte dans votre manuel. On va vous rappeler les questions, hein, y a pas de problème. Et je pense que c'est pas trop loin. C'est bien pour ça que j'aimerais le corriger là, de façon à ce que ça ne soit pas une correction après les vacances. Ça risque d'être sérieusement refroidi. Et pour vous et pour moi. On peut y aller ? Alors, première question. Sur quel ton successif et différent peuvent être dit les deux ? J'en conviens. Pourquoi ? De quoi Tibia est-il appelé à convenir ? On rappelle la phrase. Pourquoi n'en aurais-tu pas, Tibia ? Tu es fort laid, mais tu as beaucoup d'esprit. Là-dessus, Tibia répond, j'en conviens, j'en conviens. Alors, oui ? Alors, j'ai dit, ça va être gênant parce que je n'ai pas souvent trouvé la réponse que j'attendais. Hein? Donc, ça risque, force le j'ai dit d'être à côté un petit peu. Hein? Quelques-uns d'entre vous y ont touché. Hein? Où était la difficulté à la limite ? C'est sur la première question peut-être, hein, c'est-à-dire pourquoi n'en aurais-tu pas de maîtresse ? C'est vrai que ma question, elle ne portait pas sur cette première question, elle portait sur l'affirmation de Claudio, c'est-à-dire tu es fort laid, mais tu as beaucoup d'esprit. Alors moi j'attendais quelque chose d'assez simple. La première proposition, tu es fort laid, bon, il me semble que dans ce cas-là, Tibia n'est pas trop content. Hein ? Comment ? Bien sûr que non, on peut dire ça à son valet, il n'y a pas de problème. C'est un valet. Bon, ça n'est pas haineux parce que le maître ne va pas s'abaisser à avoir de la haine vis-à-vis du valet. C'est son serviteur, c'est tout. Voilà. On pourrait peut-être ajouter par rapport à ce que tu dis, tu es fort laid et ça me rassure. Hein? Voilà, parce que on nous dit quelque part quand même que Claudio n'est pas très jeune. Hein? Donc il n'est pas forcément très beau non plus. Donc qu'il ait un valet qui soit fort laid, ça l'intéresse. Ça le met plutôt en valeur d'une certaine manière. Hein? Bah, tu changes de chaise. Tu changes de chaise. Tu vas pas nous faire une aventure avec ça. Voilà, Kevin est assis. Donc j'attendais, première proposition, tu es fort laid. Sur quel ton il va dire ça ? Vous aviez du choix. Hein, mais simplement en retenant que ce n'est pas une réflexion très positive. Hein. Donc,
que le premier Jean Combien, il était surpris aussi.
Ah non, il n'est pas surpris de sa laideur, il doit le savoir, il consulte sa glace, enfin, il ne doit plus regarder sa glace, quoi. Non. Alors, disons, ce qu'on peut dire au niveau le plus simple, tout en sachant que dans la mise en scène, on peut mettre un tas de nuances, hein, au niveau le plus simple, ça, tu es fort laid, ben, il est plutôt fâché. Hein? Donc il nous dirait, n'essaie pas de défendre ta réponse, il nous dirait, j'en conviens, sur un ton fâché, on va rester là au départ. Hein? Et puis le deuxième, j'en conviens, tu as beaucoup d'esprit et plutôt un compliment, eh bien il serait plutôt content. Hein, voilà, j'attendais cette réponse à ce niveau élémentaire. Alors il y en a parmi vous qui m'ont dit, pour le second par exemple, avec un air de modestie. Hein, là, c'était déjà un peu plus raffiné. On te fait un compliment. Oh, tu rougis presque du compliment. Hein, voilà. Voilà pour le second. Hein, pour le premier, on pourrait, par exemple, comme c'est plutôt que se fâcher, hein, se défendre par le rire. Hein, il pourrait, quand on vous dit quelque chose comme ça, dont vous savez que c'est vrai et que ça vous dérange, la réaction, ça pourrait être le rire. Donc en raffinant un tout petit peu la, dans l'expression, on pourrait dire le premier, j'en conviens, en riant d'une manière de se défendre contre ce... Ben oui, puis j'y peux rien. Hein, aussi l'idée, j'en conviens, mais j'y peux rien. Ben, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, hein? Vous dites à une fille, t'es belle, qu'est-ce qu'elle a fait pour ça? Ah, rien du tout, je veux dire. Bon. Ben, si s'arrange, c'est qu'elle n'est pas belle. Hein, si tu me dis, écoute, si elle s'arrange, c'est qu'elle n'est pas belle. Bon, elle est belle, elle n'y peut rien. Elle n'est pas belle, elle s'arrange. Voilà, c'est comme ça, il faut être clair. Non, bon. Alors de quoi? C'est vrai que la deuxième partie de la question, en principe, pour répondre à la première partie, il fallait avoir répondu à la deuxième partie. Hein? C'est-à-dire, de quoi est-il appelé à convenir? Il est appelé à convenir qu'il est fort laid et qu'il a beaucoup d'esprit. Voilà. Hein? Ouais, mais bien sûr. Mais bien sûr. Alors, petit 2. Les termes du vocabulaire amoureux. Alors, on va y aller, hein, doucement. Oui, mais moi je les ai. Mais vous avez les textes. Si, tu as le texte depuis le début de l'année. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors évidemment, quand on vous demande le registre, hein, le vocabulaire amoureux, ben on peut commencer par amoureux, mais il ne faut pas se contenter de amoureux. Hein. Ça ne m'a pas paru une réponse suffisante. Alors éperdument, pourquoi éperdument? C'est pas éperdument, c'est pas du vocabulaire amoureux en soi. Hein. Néanmoins, si tu mets l'expression globale, tu as le droit. Hein. Bon, ce que vous avez fait souvent. Alors, après, ben on allait assez loin dans le texte. Vous aviez amant, hein, deux fois.
Odeur d'amant.
Vous aviez, et ça, ça a été oublié, vous aviez entremetteuse. On est un con, disait ma grand-mère. Hein, alors, ne dis pas on l'a mis, dis je, moi, quatre fois, l'ai mis fier de toi. D'accord? Bon. Alors tu as mis entremetteuse, on est content de le savoir. Ensuite, Virgile, je ferai un truc qui nous permettra de continuer de travailler. Hein, peut-être sans toi. Peut-être sans toi, Virgile. Le mot sérénade vous a gêné. Alors, d'accord. Néanmoins, on est revenu plusieurs fois sur ce texte-là. Moi, je suis étonné que, un, vous n'ayez pas cherché dans le dictionnaire si vous ne le connaissez pas, hein, puisque le texte, on l'a vu précédemment. Tu ne savais pas que tu serais interrogé dessus. Oui, mais tu as lu le texte, tu vois un mot que tu ne comprends pas, tu le cherches. Ça me semble une attitude normale. Bon, ensuite, tu le vois le même mot en cours, tu ne comprends pas le mot, tu me le demandes. Ça n'a pas été fait non plus. Hein. Donc, sérénade, c'est un peu de la même famille que soirée. Hein. Donc, c'est un morceau de musique qu'on joue le soir, sous le balcon, des dames à qui on veut faire la cour. Une sérénade, c'est aussi une engueulade, hein, c'est un autre sens du mot sérénade. Hein, ma mère m'a fait une belle sérénade quand je suis rentré. Voilà. Hein, bon, elle m'a chanté une drôle de chanson. Donc sérénade fait partie du vocabulaire amoureux. Vous avez un mot une troisième fois, vous avez maîtresse. Alors il y en a qui ne sont pas allés jusqu'à maîtresse, même si beaucoup l'ont mis. Et puis j'attends éventuellement que vous m'ajoutiez quelques propositions, mais pour l'instant, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y en a encore, je pense, non? Alors qu'est-ce qu'il peut y avoir? Donc on a dit entremetteuse, on a dit sérénade, on a dit à peu près tout. Une guitare en soi, c'est pas du vocabulaire amoureux. Tu comprends?
Parce qu'on avait relevé quand on avait fait l'analyse en cours. C'est pour ça que moi je l'ai mis en fait.
Oui, bah tu vas pas être puni parce que tu as mis ça, mais c'est pas en soi du vocabulaire amoureux. 3. Les éléments qui renseignent le spectateur. Alors attention à celle-là. Hein. Hein, donc la 3, vous avez besoin d'entendre quand même. Hein. Alors, justement pas. Relevez les éléments qui renseignent. Attention, il fallait être attentif à le spectateur. Le spectateur, ce n'est pas le lecteur. Donc les didascalies, non. Le spectateur ne voit pas les didascalies, d'accord? Bien. Alors, les éléments qui renseignent le spectateur sur les noms, il y en a qui l'ont très bien fait, hein, qui renseignent le spectateur sur les noms, les rôles, le caractère des personnages, en les expliquant. Bon, là, il faudrait reprendre le texte dans l'ordre. Alors, on va le reprendre dans l'ordre. Le livre de messe à la main, à la limite, on pouvait le noter. Pourquoi ? Mais je vois, c'est un objet. Hein. Simplement, je ne sais pas. L'identifier comme un livre de messe, ça peut être un peu dur quand même. Il faut qu'elle le porte grand comme ça avec marqué livre de messe dessus.
Non, mais, oui. Mais si elle croit en mort, il faut savoir un
peu. Oui, mais c'est dit plus loin dans le texte, de façon plus nette. Hein. L'objet en lui-même, il ne va pas forcément parler. Hein, il va parler par référence au texte après. Hein. Voilà. Alors, Souta. Ma belle dame, n'en concluez pas qu'elle est belle, parce que ma belle dame, c'est simplement, voilà, c'est une formule de politesse, ça n'est pas l'identification de la beauté. Ce qu'on peut noter au passage, c'est que pour l'instant, la demoiselle qui se recoiffe, c'est mademoiselle Delmas. Et la demoiselle qui parle derrière, c'est mademoiselle. Là, comment? Mademoiselle Fantin, oui. Donc on disait... Ma belle dame, on peut noter négativement d'une certaine façon qu'elle ne nomme pas Marianne, d'accord ? elle pourrait dire Marianne, c'est pas fait. Ensuite, Ciuta ne se présente pas, vous l'avez noté, du début à la fin du texte, on ne sait pas, elle n'est pas nommée, hein, on ne saura pas qui elle est, mais pour nous c'est aussi un personnage secondaire qu'on ne va pas voir dans la suite de la pièce. Et, alors Ciuta est une vieille dame et une entremetteuse, elle est nommée indirectement dans le texte plus loin, puis quand il nous dit « il pleut des entremetteuses », eh bien c'est Ciuta qui est désignée. Hein. Ben non, elle est payée pour une entremetteuse, tu la payes, je veux déclarer mon amour à un tel, je te donne 100 balles et puis tu vas le faire. Hein, c'est ça, hein, entremetteuse. Bon. Comment ? Bon, un jeune homme de cette ville est éperdument amoureux de vous. Là, on commence à définir... Hein, on est dans la problématique de Célio. Ouais, on est en train de nous évoquer Célio. Depuis un mois entier, il cherche vainement l'occasion de vous l'apprendre. Son nom est Célio. Le voilà nommé. Il est de bonne famille, d'une figure distinguée. Là, c'est plutôt ses origines. Et d'une figure distinguée, c'est plutôt une idée de beauté aristocratique, d'une certaine façon. Hein. Voilà, oui, voilà, oui, t'as raison. Alors, Marianne, j'en instruirai mon mari, vous l'avez relevé, on nous dit que Marianne est mariée. Ah, ben, excusez-moi pour Ciuta, parce qu'elle est nommée quand même, hein, mais ce qui n'est pas défini, c'est son rôle. Célio nous dit, eh bien, Ciuta, qu'a-t-elle dit, hein, donc, ici, on a nommé la vieille, hein, on sait son nom. Remarque de Ciuta, plus dévote et plus orgueilleuse que jamais. Alors, ça caractérise le caractère de Marianne, mais en même temps, je veux dire que... Oui, mais c'est pas estampillé vrai. C'est une remarque de Ciuta. Hein, donc, voilà. Donc, pour le spectateur, c'est une donnée à vérifier. Hein. Alors Célio, malheureux que je suis, ben là je vous ai dit que Célio avait quelque chose du héros romantique. Le héros romantique doit nécessairement être malheureux, c'est indispensable hein, pour être un héros romantique. Hein. Je n'ai plus qu'à mourir, ben oui, alors la mort ou le suicide, même chose, c'est le destin du héros romantique. La plus cruelle de toutes les femmes, alors si on vous avait demandé hein, la figure de style, c'est quoi ? Hyperbole. C'est une hyperbole, hein, bien sûr. Hein. Et que me conseilles-tu, Ciuta, nommée pour une deuxième fois, quelquefois qu'on n'ait pas compris qu'elle s'appelle Ciuta. Elle est nommée une deuxième fois. Quelles ressources puis-je encore trouver ? Voici son mari. Donc ici, on annonce l'arrivée de... Claudio qui lui ne sera pas nommé, hein, mais on sait que c'est le mari de Marianne. Arrive donc Claudio et Tibia. Claudio définit le rôle de Tibia en disant mon fidèle serviteur, mon valet de chambre dévoué. Voilà. Sur le personnage de Claudio apprend que j'ai à me venger d'un outrage. Hein, c'est donc le personnage qui a une vengeance à exécuter, en sachant qu'on est dans les clichés. Hein, regardez le début de Ruy Blas, même chose. Don Salluste a une vengeance à exécuter et il doit se venger de la reine. Et c'est là-dessus que repose toute la pièce hein, de Victor Hugo. Alors... voilà, ne cesse de murmurer sous les fenêtres de ma femme, quelquefois qu'on n'ait pas compris que Claudio est le mari de Marianne, on nous rappelle. Et enfin, un peu plus loin, Claudio nous dit, je crois que Marianne a des amants. Et voilà le Marianne nommé pour la première fois dans le texte. Hein, donc on sait maintenant que la personne qu'on a vue au début de la pièce se nomme Marianne. Voilà. Voilà. Ensuite, est-ce que Tibia a déjà été nommé? Je crois que oui. Je suis pas sûr. En tout cas, il est nommé par Claudio. Pourquoi n'aurais-tu pas Tibia? Donc, et il va être nommé juste derrière une deuxième fois. Regarde Tibia, tu en conviens toi-même. Hein? Donc, pour l'instant, il n'y a guère que Claudio qui n'est défini que par son rôle. Hein, qui a le rôle de mari. Votre femme, etc., passe pour un dragon de vertu, on y reviendra certainement. Voilà. Et puis moi, je dirais peut-être le dernier trait de Claudio. Quand je te dis quelque chose, tu me ferais le plaisir de le croire. Là, on peut dire un petit trait de caractère de Claudio, c'est-à-dire, sans dépain, c'est de l'humour. Hein, quand je te dis quelque chose, tu me feras le plaisir de le croire. C'est bon, c'est pas forcément vrai, mais fais semblant de le croire, au moins. Hein, fais semblant de le croire. Voilà. Donc on termine ce passage, puisque c'est pas la scène. La scène n'est pas finie. Hein. On termine ce passage sur un sourire de Claudio. C'est fait, quatrième. Opposition humoristique et de métaphore, c'était plus simple. L'opposition humoristique, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire, tu es fort laid, mais tu as beaucoup d'esprit. Les deux métaphores comiques, alors vous en aviez au moins trois. Hein, je crois. Moi, je pensais surtout à il pleut des guitares et des entremetteuses.
Ça, c'est pourquoi? Pour l'humoristique.